1956. La chaleur est écrasante cet été. Anatole en vacances, nous passons nos journées à l'intérieur, les volets clos, à lire, à manger, à faire paresseusement l'amour. Mon mari a pris l'habitude de m'aider en cuisine. Je l'ai même surpris ce matin avec un balai à la main. Il tenait le manche du bout des doigts, comme s'il était parsemé d'épines. Mais ce geste m'a profondément émue. Contrairement à ce qu'il a laissé paraître, l'accident de l'année dernière l'a ébranlé. C'est pourquoi il fait tout pour éviter que nous perdions ce nouveau bébé. Le soir venu, lorsque la température devient supportable, nous ouvrons portes et fenêtres et gagnons la place pour notre balade quotidienne. Les arbres sont lourds de prunes juteuses que nous dégustons en marchant lentement sous le ciel qui rosit. Il n'est pas rare que nous croisions l'un ou l'autre de nos voisins, Gaston et sa femme Joséphine s'adonnant à la course à pied, Marie et André se promenant avec Didier, Gustave et Suzanne refaisant le monde bras dessus bras dessous, Rosalie lançant un bâton à son chien, ou encore Marius et Blanche jouant avec leur fille. Ce soir, ils sont tous réunis près des sapins. Tandis que nous les rejoignons, leurs exclamations nous parviennent. Gustave est accroupi, une caméra à la main. Marie applaudit, André tend les bras. Nous arrivons juste à temps pour assister au premier pas du petit Didier, qui tendait le ventre de sa mère lorsqu'ils sont arrivés ici. 10 minutes plus tard, l'événement méritant d'être dignement fêté, la table en bois que nous avons construite avec Rosalie accueille la toute première réunion des voisins. Chacun a apporté des boissons, des fruits ou de la vaisselle, et à la lueur des bougies, nous apprenons à nous connaître. Voilà près d'un an et demi que nous avons emménagé un pass des Colibris. Je connais les prénoms de chacun des habitants. Je sais que Marius est juriste et Rosalie coiffeuse, que cette dernière a 26 ans. Et c'est tout. Nous nous croisons, échangeons quelques formules de politesse. Il arrive que les hommes se prêtent main forte pour la construction d'une terrasse ou la peinture d'un mur. Mais nous n'avons jamais dépassé la barrière de la courtoisie. Nous vivons côte à côte, comme des étrangers. Il m'arrive d'imaginer que les cloisons disparaissent. Je suis au fourneau, Joséphine sur son lit, Gustave dans le garage. Nous dormons, mangeons, faisons l'amour, nous pleurons, rions, tremblons, à quelques mètres les uns des autres. Nos corps sont séparés par des murs. Nos vies sont cloisonnées. Pendant 2 heures, nous en apprenons plus sur ces femmes et ces hommes qui respirent le même air que nous. Gustave, un grand brun à la carrure sportive, est cordonnier. Mais bien chaussé, tient-il à préciser dans un rire. Son épouse, Suzanne, est née en Tunisie. Elle parle vite, comme si le temps lui manquait. Elle évoque son village natal avec nostalgie, se perd dans ses souvenirs, puis revient à nous avec un large sourire en évoquant Édith Piaf. Son visage passe de l'ombre à la lumière. Leur bébé doit naître d'un jour à l'autre. Ils sont prêts. Elle le porte depuis 3 mois. Il l'espère depuis 3 ans. Marius, invariablement vêtu d'un costume 3 pièces, joue du saxophone. Il était membre d'un groupe de jazz à Paris, pas très connu, mais qui avait tout de même un public de fidèles. Un jour où elle visitait la capitale avec ses parents, Blanche a croisé son regard sur scène. Chaque soir, désormais, c'est à elle et à leur jumelle de 3 ans qu'il offre une représentation privée. L'été, lorsque les fenêtres sont ouvertes, je tends l'oreille pour en profiter. Je crois n'avoir jamais vu leurs mains séparées. Où que je les croise, sur la place, dans la rue, au marché, elles sont entrelacées. C'est magnifique, un amour tellement puissant qu'il est impossible de vivre sans être lié. Mais cela doit rendre délicat le lavage de la vaisselle. Marie est une petite brune taiseuse. Tout l'inverse d'André, son mari, un grand blond qui engagerait la conversation avec un arbre. Il raconte par le menu les voyages qu'ils ont effectués. Il nous fait humer les odeurs et admirer les couleurs. L'espace de quelques instants, nous ne sommes plus sur la place, mais au pied de Big Ben, à la fontaine de Trévis ou au Parthénon. Ils ont les pieds ici, la tête ailleurs et un seul désir. Y retourner dès que Didier sera en âge de se souvenir. Joséphine ressemble à une petite fille. Elle a des taches de rousseur et des yeux comme des planètes. Elle cache ses rires derrière sa main et s'émerveille d'une fleur, d'une abeille, d'un nuage. Elle veut 4 enfants, 2 pour chaque bras. Les prénoms sont déjà choisis. Ceux des garçons commenceront par un G, comme leur père. Ceux des filles par un J, comme elle. Son époux, Gaston, est vétérinaire, nonobstant le fait qu'il ressemble à un acteur hollywoodien. Le mois dernier, il est rentré avec un chaton abandonné. C'est un mâle. Ils l'ont appelé Grisou. Rosalie est veuve. Elle ne l'aurait sans doute pas confié si elle n'avait pas été pressée de questions. Une femme seule dans une grande maison. La curiosité l'emporte sur la politesse. Son mari vérifiait la toiture d'un logement dont il dirigeait la construction. Il pleuvait. Depuis, elle se consacre à la musique qui ne lui brisera jamais le cœur. Nous découvrons nos voisins, ces personnes qui vont vieillir avec nous, ces femmes pleines de rêves, ces hommes pleins de projets. C'est émouvant de songer que nous avons choisi le même endroit pour édifier nos vies. Les printemps passeront sur l'impasse des colibris, puis les étés, puis les hivers. Que nous réserve l'avenir? J'aimerais parfois passer la tête par une petite fenêtre ouverte sur le futur. Savoir si nos rêves se sont réalisés. Si Joséphine a 4 enfants. Si Rosalie remplit des salles de concert. Si Didier a une belle vie. Si Marius et Blanche se tiennent toujours la main. Si je fais encore rire mon Anatole. Il est près de minuit lorsque la soirée se termine. Gustave se lève le premier. Il travaille tôt demain matin. Nous le suivons dans l'impasse et chacun regagne sa maison. Une à une, les portes se referment sur notre intimité. J'ai l'impression d'avoir levé un voile, élargi mon horizon, qu'il m'arrive de trouver trop étroit. Je me sens bien. Dans un accès d'audace, j'embrasse langoureusement mon mari, lequel, semblant apprécié, me soulève et me porte jusqu'à notre lit. À peine m'a-t-il déposé qu'une douleur me plie en deux. Je la reconnais immédiatement. Elle a déchiré mon bas-ventre l'année dernière. Je n'ai aucune visibilité sur l'avenir, mais j'ai une certitude. En février prochain, nous n'aurons pas notre bébé.